Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quel vous écoutez ce podcast bien évidemment, et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième interview. Oui, des gens acceptent de me parler, ça arrive, et aujourd'hui c'est la réalisatrice Charline Favier qui a accepté de répondre à mes questions à l'occasion de la sortie de son film Slalom le 19 mai.
Merci beaucoup Charline Favier d'avoir accepté mon invitation. Je vais commencer par vous poser donc la première question. C'est quoi le premier film que vous êtes allé voir au cinéma et celui qui vous a le plus marqué?
Je pense que c'était La Strada de Fellini, donc c'était pas du tout à la sortie du film, hein, parce que c'était bien avant... jeunesse. Mais je pense qu'il y avait peut-être eu une rediffusion du film. Moi, j'habitais dans un petit village à la campagne et je pense que ma mère m'avait emmené voir ce film. Et c'est vrai que ça m'a énormément touchée. J'ai un souvenir de ce film. Ça se passait dans l'univers du cirque, avec cette petite fille. Il y avait d'ailleurs déjà une relation avec un homme plus âgé. Enfin, c'est marrant, il y a des choses comme ça qui sont restées dans mon cinéma d'aujourd'hui. Et c'est un film qui m'a énormément marqué.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Est-ce que vous avez toujours voulu faire du cinéma ou c'est venu au fur et à mesure?
Pas du tout, en fait. Moi, je savais pas du tout que j'allais faire du cinéma. J'ai pas du tout fait d'études de cinéma. J'ai pas fait d'études tout court. J'ai fait plein de choses différentes. J'étais géo club med, prof de ski nautique, serveuse dans des bars. J'ai bossé dans des auberges de jeunesse en Australie et en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. J'ai fait le tour de l'Annapurna à pied, en sac à dos. J'ai fait plein de choses qui n'avaient rien à voir avec rien, mais je me suis cherchée pendant longtemps. J'étais très libre, j'étais anti-système. Donc, je suis pas du tout allée à la fac. J'ai passé mon bac. Et ensuite, j'ai fait quand même une école de théâtre à Londres. Et ensuite, j'ai voyagé, j'ai bourlingué. Voilà, moi, j'étais pas du tout faite pour les études. Et finalement, c'est pendant un voyage en Australie, je me suis retrouvée dans une communauté hippie. Il y avait plein de gens qui voulaient sauver le monde. Et là, je me suis dit, il faut que je filme parce que en rentrant, les gens vont encore pas me croire. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier documentaire, qui est visible d'ailleurs sur mon site internet qui s'appelle Is Everything Possible, Darling, où je suis donc je suis restée 8 mois dans cette communauté hippie, qui était en train de devenir un backpacker d'ailleurs. Et voilà. Et là, j'ai chopé le virus du cinéma. Je me suis dit, en fait, ça existe, c'est un métier, ça me passionne. Et ensuite, je suis rentrée en France à 25 ans. En fait, j'ai quand même une longue période d'errance, hein. De 18 à 25 ans, je n'ai fait que voyager et fait des petits boulots. Et je suis rentrée à 25 ans, j'ai monté ma boîte de prod, Charlie Plus Productions, et j'ai continué à faire des films.
On voit de plus en plus de femmes réalisatrices dans le cinéma français et qui amènent un souffle nouveau d'ailleurs sur notre 7e art. Est-ce que vous pensez que les mentalités ont changé ou du moins évolué, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin pour l'égalité dans le cinéma français?
Bah, je pense que ça évolue quand même. Il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, c'est super. Voilà, maintenant je pense que ça évolue et c'est bien, il faut que ça évolue. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent du cinéma. Je pense qu'elles prenaient pas la place avant parce que c'était compliqué, parce que c'était un monde d'hommes, parce qu'on leur donnait pas la place. On ne faisait pas confiance en fait pour faire des films, et ça c'est vraiment en train de changer. Je crois qu'on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère, et c'est marrant parce que je pense que nos parents qui ont vécu mai 68, ils pensaient eux aussi que ça y est, c'était fait, l'égalité homme-femme, et puis on se rend compte en fait en 2020 qu'en fait on est loin du compte et que là on est en train de faire la deuxième révolution féministe après mai 68, et c'est quand même pas mal, on en avait besoin.
Avec qui vous rêveriez de collaborer au cinéma?
Jeanne Campion. Alors elle est réalisatrice aussi, mais je sais pas, j'aurais tellement envie de la rencontrer. Pour moi, c'est vraiment mon idole de cinéma, mon mentor. Je me sens super proche de ce qu'elle fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se connaît, j'ai l'impression qu'on a vécu un peu de la même manière. C'est bizarre, je me sens comme un alter ego avec Jeanne Campion.
Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de votre film, donc Slalom, qui est sorti au cinéma le 19 mai. Est-ce que ça a été difficile de faire Slalom, je veux dire, au niveau du sujet qui est assez sensible, donc de vendre ce sujet, au niveau des financements, au niveau du tournage, comment ça s'est passé?
Bah, en fait, ce film, j'ai commencé à l'écrire en 2014, donc bien avant MeToo. 2014, 2015, 2016, 2017, tout le monde s'en foutait royalement et personne ne pensait que c'était utile. Donc oui, on a quand même pas mal galéré pour trouver des financements. Et puis, petit à petit, 2018, les gens ont commencé à voir un peu les choses autrement. Donc il y a eu cette vague MeToo, ils se sont dit tiens, peut-être, et tout ça. On a décidé de faire le film avec le peu de financement qu'on avait parce que c'était vraiment une urgence. Moi, j'avais vraiment besoin de faire ce film. Donc on l'a tourné en 5 semaines avec pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'envie. Beaucoup de passion, une équipe qui est comme une famille pour moi, ma famille de cinéma, d'ailleurs je dis souvent, et voilà.
Quel est votre point de vue vis-à-vis de la gestion de la culture en cette période de pandémie et comment vous avez vécu, vous, cette période avec un film qui attendait dans les coulisses, entre guillemets?
Oh, mais moi, je suis assez de bonne composition, donc j'ai travaillé sur d'autres projets de films, j'ai fait du sport, j'ai fait d'autres choses. Voilà, le cinéma, il n'y a pas que ça dans la vie quand même, hein, donc il faut aussi faire d'autres choses, relativiser. Donc, j'ai vécu ça plutôt bien, en fait. Je trouve que ça permettait de se poser des questions essentielles, de se concentrer sur des valeurs simples. voilà, j'ai attendu patiemment, mais j'étais assez confiante.
Pourquoi Noé Habitat et Jérémy Régnier? Qu'est-ce qui vous a fait vous pencher sur ces deux acteurs et a fait que votre choix s'est porté sur eux, quoi?
Bah Noé, je l'avais vu dans Ava, j'ai tourné un court-métrage avec elle pendant l'écriture de Slalom en 2018, un court-métrage qui s'appelle Odol Gori, vous pouvez voir d'ailleurs sur internet. Puis ça a été un coup de cœur énorme, un énorme sentiment de sororité, enfin, on était vraiment comme deux sœurs, il y a quelque chose un peu indescriptible entre nous deux. Et Jérémy, j'adore cet acteur, je lui ai proposé le film direct et il a accepté tout de suite. Et j'adore ce comédien parce que je trouve qu'il se métamorphose énormément, il se met beaucoup en danger. Je trouve qu'on le reconnaît pas d'un film à un autre. Il prend ce risque-là de rentrer dans la peau d'un personnage et ça, je trouve que c'est encore trop rare chez les acteurs français.
Un des détails bluffants du film, c'est les scènes de course qui sont magnifiquement filmées. Donc comment vous avez fait? Quelle caméra vous avez utilisé? Quel stratagème? Parce que non seulement c'est bien cadré, mais aussi l'image est super claire et avec la neige, ça devait être compliqué, non?
Bah, c'était assez simple en fait. On a trouvé un super cadreur ski qui s'appelle Yann André, qui est un ancien skieur professionnel et qui porte la caméra à bout de bras en suivant la skieuse. En fait, la clé de cette scène, c'est d'avoir un super skieur. Et on avait la même caméra que le reste du tournage, une Alexa Mini, les mêmes optiques. Voilà, c'est juste que voilà, Yann suit la skieuse en skiant.
Donc skieur et cinématographe.
Ouais.
Une chose qui ressort aussi, c'est l'importance de la montagne, de la filmer dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. C'est comme un personnage secondaire du récit. Et est-ce que c'était important pour vous de laisser cette place à la nature, ou du moins à la montagne, qu'on voit pas très souvent dans le cinéma?
Ouais, c'était très important pour moi. Moi, j'ai grandi dans la nature, j'ai grandi sans télé, j'ai grandi en faisant des cabanes dans les arbres et en jouant aux Indiens. Et donc, pour moi, la nature, c'est primordial. Ça raconte plein de choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre, aux sentiments qui nous traversent, tout ça. Et c'était très, très important de mettre en scène cette montagne, justement, en lien avec les états d'âme de Lise, et que ça soit un peu comme un personnage à qui elle pouvait poser des questions, trouver un refuge, demander de l'aide. C'était très important pour moi, ça.
Je pense que les deux mots qui ressortent le plus du film, personnellement, c'est ambiguïté et emprise. Dans ma critique, j'avais expliqué qu'à ce niveau-là, c'était très bien écrit, car le film joue toujours avec la limite sans jamais la dépasser. Et j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti sur savoir comment vous avez voulu représenter cette relation un peu malsaine de coach-élève.
Bah, c'était vraiment le rapport entraîneur-entraîné avec un rapport de force. Et en même temps, je voulais que les rapports ne soient pas manichéens, quoi. C'est-à-dire que lui ne soit pas qu'un serial abuseur et elle ne soit pas qu'une victime. J'avais envie qu'elle soit aussi motrice et que lui soit aussi, se sente coupable par moment, soit conscient de ce qu'il est en train de faire, beaucoup trop tard, mais il l'est quand même à un moment. J'avais envie en fait de rendre ces personnages très humains, et quand on se regarde en face dans un miroir, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on est un peu les deux, et c'était aussi ce qui permettait au film d'être accessible à tous, et que tout le monde puisse se retrouver dans les deux personnages. Et pour qu'on puisse vraiment parler de ce sujet-là de manière simple et de manière honnête, il faut qu'on puisse tous se questionner en allant regarder à l'intérieur de nous-mêmes quoi ce genre de choses peut arriver. Si on se pose pas ces questions-là de cette manière-là, je crois qu'en fait on trouve toujours une manière d'esquiver le sujet, et du coup bah, on règle jamais le problème. Je laisse chacun voir le film comme il a envie de le voir. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un film sur le renoncement, c'est un film sur la résilience, c'est un film sur une jeune adolescente qui apprend à dire non, qui apprend à se libérer, qui apprend à vivre dans son propre désir. Et ça, voilà, c'est un film quand même qui donne du courage, qui donne de la force. Après, voilà, chacun doit justement le regarder avec sa propre expérience et ses propres émotions et ses propres sensations.
Le film traite de harcèlement dans le sport, donc. On sait que vous aussi, vous avez une histoire liée au sport, et on sent vraiment dans le film que vous y avez laissé une part de vous. Parce que, par exemple, il me semble que l'appartement dans lequel vit Lise, c'était l'un de vos appartements, si je me suis bien renseigné. Donc on sent que vous y avez laissé une part de vous. Est-ce que c'est un film vraiment autobiographique ou en partie autobiographique?
Non, mais un premier film, souvent, c'est un peu inspiré de ce qu'on a vécu, mais après, c'est une fiction, donc il y a plein de choses qui sont différentes de ma vie. Et après, c'est pas très intéressant de savoir qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai pas vécu. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dans le film, ce que Lise vit et qu'on puisse en parler. Après, il y a aussi plein de recherches que j'ai faites. Voilà, c'est un mix entre plein de choses.
Est-ce que vous avez eu des inspirations pour votre film, je veux dire au niveau des cadres, des plans, de la mise en scène narrative avec les couleurs? Parce qu'on voit notamment qu'à partir d'une certaine scène, ensuite, on voit qu'il y a une présence de la couleur rouge qui est bien présente. Est-ce que vous avez eu des inspirations? Est-ce que vous avez pioché dans votre cinéphilie pour vous aider à fabriquer ce film, je veux dire?
Non, pas trop en fait. Moi, je suis pas très cinéphile en fait. Donc, j'ai plutôt pioché dans des peintures, dans des photographies, c'est plutôt des choses comme ça qui m'inspirent. D'ailleurs, c'est plutôt un travail un peu plastique, quoi. Mais pas vraiment de film, non.
Moi, je voulais parler aussi, revenir sur la fin du film, parce qu'il y a beaucoup qui ont été décontenancés, et moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que cette fin n'était pas une fin, ou que c'était un peu, ça finissait un peu de manière brouillonne. Et je voulais avoir votre ressenti, donc pourquoi une fin qui est si brute ?
Je pense que c'est tout sauf brouillon, parce que c'est très clair. Et justement, c'est peut-être ça qui perturbe. En tout cas, c'est que c'est très simple, en fait. C'est pas ça, c'est pas que c'est très clair, c'est que c'est très simple. Cette fin, c'est juste... En même temps, je veux pas trop parler de la fin, parce que si les gens entendent ça de quoi on parle, ils vont pas voir le film.
Oui. Mais je veux dire, moi par exemple, j'ai vécu la fin vraiment comme une fin assez ouverte, qui est à peu près une métaphore de tout le film où elle se recherche et elle finit par trouver en fait à la fin. Et le film se termine sur ça quoi. Donc,
Ah oui, pour moi c'est une fin très ouverte et qui donne de la force et du courage.
Au niveau des entrées, j'ai pas réussi à avoir les chiffres exacts actuels, mais je crois qu'en première semaine, Slalom avait totalisé à peu près 26 000 entrées, quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à faire autant d'entrées ou est-ce que c'est une agréable surprise ?
Non, je crois qu'on a fait plus que ça en première semaine. On a fait 43 000 entrées en première semaine.
Ah, oui.
Ouais, on est content, ouais, c'est bien, parce que c'était pas évident avec la jauge réduite, le couvre-feu de 21h, pas mal de concurrence à côté, donc non, on est content. On aimerait toujours faire plus, mais c'est déjà pas mal. Après, voilà, il faut que le film soit vu le plus possible, voilà. On espère que ça va continuer. On est encore dans 333 salles là, donc c'est bien.
Quels sont vos projets pour la suite ?
J'ai plein de projets. J'ai deux films de fiction pour le cinéma, dont un qui parlera d'une des cofondatrices des FMN. Et j'ai aussi une série en préparation, une série policière.
Et enfin, pour clôturer cette interview, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent à aller voir Slalom ?
Allez-y, c'est un film important, nécessaire, c'est un film dans lequel j'ai mis toutes mes tripes, c'est un film hyper personnel, je pense que c'est un beau film, en tout cas j'ai fait en sorte que ça soit un vrai voyage émotionnel, un vrai voyage visuel, je pense qu'on prend une claque quand on rentre dans la salle de cinéma, de froid, de neige, donc voilà, pour tout ça, ça vaut le coup, quoi, parce qu'on voilà, on rentre dans un univers et le message, il est là pour qu'à la fin du film, on puisse tous parler, que ça libère un peu la parole, et je crois qu'à chaque fois, en général, les gens qui voient le film passent des soirées entières à discuter, à parler du film, à parler de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont vécu. Donc, faut aussi aller le voir pour ça, pour vivre ce moment, cette expérience et continuer la discussion chez soi.
Merci beaucoup, Charlène Favier, d'avoir été avec nous.
Merci.
Et on vous souhaite le meilleur pour tous vos projets à venir.
Merci.
Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Et merci encore une fois, Charlène Favier, d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @tfcedlmlff. Tout simplement les initiales, de toute façon, c'est de la merde, les films français. Voilà, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.